Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Métropolez-vous. Ravi de vous retrouver pour la suite de notre cycle d'émissions consacré à l'histoire de Toulouse. La première nous a menés jusqu'aux temps les plus anciens, ceux qui vont de la préhistoire au royaume wisigoth, en passant par les périodes gauloises et gallo-romaines. La deuxième, la semaine dernière, nous a permis de parcourir les 1000 ans du Moyen-Âge toulousain, et notamment les très intéressants 12e et 13e siècles. C'est donc au début de la Renaissance que nous nous sommes arrêtés, alors que Toulouse connaît un nouvel âge d'or, grâce à l'industrie et au commerce du pastel, et alors que l'imprimerie vient d'arriver dans la ville, nous allons poursuivre cette remontée vers l'époque moderne en faisant étape aujourd'hui aux stations 16e, 17e et 18e siècles, ce qui va nous mener des guerres de religion à la Révolution française et même au Premier Empire, encore des périodes très riches en événements et en personnalités qui auront marqué l'histoire de la ville rose, parfois de façon tragique. Un certain nombre d'édifices, lieux remarquables du patrimoine toulousain, ont aussi vu le jour lors de ces trois siècles. Je vous invite à suivre le guide tout au long de cette émission dédiée à l'histoire de Toulouse du 16e au 18e siècle. Et le guide est une guide en fait. Après Jean-Marie Payet et Agathe Roby, j'ai le plaisir de recevoir Christine Doucet-Seyden dans le grand studio de Radio Présence pour cette nouvelle émission consacrée à l'histoire de Toulouse. Bonjour madame, bienvenue à vous aussi, merci d'être au rendez-vous. Alors tout comme les deux historiens que je viens de citer, vous avez aussi collaboré à l'ouvrage collectif Histoire de Toulouse et de la Métropole. Quelle a été votre contribution personnelle dans la rédaction de ce livre et pourquoi vous a-t-on sollicité pour y participer ?
Bonjour, d'abord merci pour votre invitation. Si j'ai été sollicitée, c'est sans doute parce que je suis historienne. J'enseigne à l'Université Toulouse-Jean Jaurès depuis maintenant fort longtemps. Je suis spécialiste de l'histoire de la France moderne, plus spécialement du 18e siècle en ce qui me concerne. Et au cours des années passées ici, j'ai fait travailler des étudiants dans le cadre de leur master sur l'histoire de Toulouse, notamment au XVIIe et au XVIIIe siècle.
Eh bien, merci. Voilà qui pose déjà le cadre de la discussion que nous aurons dans quelques minutes lorsque nous allons nous plonger ensemble dans l'histoire de Toulouse des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Pour l'instant, nous allons prendre des nouvelles de l'actualité métropolitaine au XXIe, en retrouvant maintenant Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire Métropolitaine. Métropolez-vous l'actu. Et nous commençons ce flash avec une bonne nouvelle, puisque l'État français a retenu la candidature de Toulouse pour accueillir le Centre européen de prévision météorologique.
Et oui, ce centre créé en 1975 est actuellement basé à Reading, en Angleterre. Institut de recherche et service opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il produit et diffuse aux services météorologiques nationaux de ses États membres des prévisions numériques du temps. En raison du Brexit, il doit trouver un autre lieu d'implantation sur le sol européen. Cette installation du Centre européen pour les prévisions météorologiques à Toulouse aurait pour conséquence l'installation de 150 salariés et de leurs familles dès l'été 2021, puis de l'arrivée de 100 salariés supplémentaires dans un second temps. Toulouse doit maintenant se démarquer face à d'autres villes européennes comme Amsterdam, Barcelone ou encore Darmstadt. Il s'agit désormais pour nos trois collectivités, Toulouse Métropole, Région Occitanie et département de la Haute-Garonne, ensemble de consolider aux côtés de l'État la proposition qui sera remise début octobre. Toulouse Métropole sera au rendez-vous et assumera sa part du financement, a déclaré Jean-Luc Moudinc, président de Toulouse Métropole et maire de la Ville Rose.
Une autre information importante pour l'économie métropolitaine, Toulouse Métropole va soutenir les petites entreprises locales.
Oui, les petites entreprises subissent de plein fouet la crise sanitaire. Toulouse Métropole se mobilise donc pour préserver les emplois locaux. 28 000 petites entreprises du territoire métropolitain pourront ainsi bénéficier de ce soutien qui se fera sous trois formes. D'une contribution à raison de 2 euros par habitant, soit 1,6 million d'euros au fonds local lancé par la région Occitanie au profit des commerçants restaurateurs et du tourisme, d'un dispositif spécifique de 18 millions d'euros exclusivement de Toulouse Métropole pour les entreprises éligibles à la base minimum du CFE et ayant un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros et d'un dégrèvement des deux tiers de la CFE en 2020 pour les bars, cafés, restaurants et entreprises de l'événementiel qui sera prise en charge à 50% par l'État et 50% par Toulouse Métropole. Ce dispositif devant être adopté au préalable en loi de finances.
Et puis nous terminons malheureusement ce flash sur une note plus triste. Nous avons appris samedi dernier la mort de la soprano toulousaine Maddy Mesplé.
Oui, Maddy Mesplé s'est éteinte ce 30 mai à l'âge de 89 ans dans cette ville de Toulouse qu'elle a vu naître et qu'elle a tant aimée. Elle se forme en chant lyrique au Conservatoire de Toulouse auprès de Madame Isard Lasson, femme du ténor Louis Isard, alors directeur du Théâtre du Capitole de Toulouse, grande voix de l'opéra des années 1950 à la fin des années 1970. Sa passion pour la musique qui l'a conduite à aborder tous les répertoires, opérettes, opéras ou musique contemporaine, avant de se consacrer à l'enseignement. À la fin de sa vie, seule la maladie de Parkinson dont elle était atteinte l'a tenue à l'écart du Théâtre du Capitole. Elle a été honorée deux fois au Capitole, justement par les prestigieux insignes de grand officier de la Légion d'honneur en 2015 et de grand croix de l'Ordre National du Mérite, c'était cette fois en 2019. Sa voix de soprano colorature au timbre et à la tessiture assez rare a parcouru le monde pour interpréter Rosine du Barbier de Séville, l'Acmé, Olympia ou encore la poupée des contes d'Hoffmann.
Le flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix et Christine Doucet-Seyden. Peut-être une réaction à cette information qui, je pense, a touché un peu tous les Toulousains, donc la mort de Maddy Mesplé.
Oui, j'ai une pensée pour Maddy Mesplé, que je n'ai jamais eu la chance d'entendre chanter en live, comme on dit en mauvais français, mais qui est une grande figure du chant, et en particulier du chant toulousain.
Oui, figure qui aura marqué, je pense, l'histoire de la musique à Toulouse, en tout cas au XXe siècle, on revient à l'histoire, et puis aussi qui aura été une ambassadrice, pour notre ville, un peu partout dans le monde, Maddy Mesplé, donc, qui était venue ici dans les studios de Radio Présence et à qui nous voulions rendre cet hommage. On le fera dans le cadre d'autres émissions. Nous allons maintenant reprendre le fil de celle-ci et nous allons nous laisser guider en votre compagnie dans l'histoire de Toulouse au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, la suite avec l'invité de ce numéro, Christine Doucet-Seyden, historienne, maître de conférences à l'université Toulouse 2, Jean Jaurès, qui a collaboré à l'ouvrage collectif Histoire de Toulouse et de la métropole, paru aux éditions Priva. Nous avions terminé l'émission précédente sur l'industrialisation et la commercialisation du pastel, cet or bleu qui a enrichi la ville rose dès le 15e siècle, et on peut dire que cette période de prospérité va se prolonger longtemps, en particulier au 16e siècle, dans la première moitié. Est-ce qu'il y a des noms qui ont marqué cette histoire du pastel à Toulouse? Est-ce qu'il y a des noms qui ressortent de pasteliers célèbres?
Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment la grande époque du pastel et la grande époque de Toulouse qui connaît une prospérité tout à fait incroyable durant cette période-là, pendant effectivement plus d'un demi-siècle au cours du XVIe siècle. Alors, les noms, certains grands marchands sont connus des historiens comme Lance Foch, par exemple. Mais aujourd'hui, les deux noms qui sont encore présents dans le patrimoine et le paysage toulousain, ce sont les noms de Bernuit et d'Assezat qui ont fait construire, pour montrer leur réussite, de très beaux hôtels particuliers dont une grande partie sont encore visibles aujourd'hui au sein de notre ville.
Alors je crois que c'est aussi une période d'intense vie intellectuelle. Là aussi, il y a des noms qui ressortent.
Alors, c'est la période de la Renaissance dans l'ensemble de la France et Toulouse, bien sûr, participe à ce grand mouvement culturel, intellectuel. La ville est le siège d'une université prestigieuse, notamment en droit. Elle attire des étudiants non seulement de toute la France, mais aussi de toute l'Europe. Et il y a au sein de la ville, un certain nombre, on va dire, d'intellectuels qui sont ce qu'on appelle des humanistes, c'est-à-dire qui s'intéressent prioritairement aux langues anciennes, au latin, au grec, et qui participent à ce grand mouvement de renouveau culturel qui est né en Italie au siècle précédent. Certains de ces personnages sont assez connus, comme Jean de Pin, par exemple, qui était un humaniste important durant cette période-là. Et ce renouveau intellectuel, il va de pair aussi avec une forme de dynamisme artistique auquel ces grands hôtels participent, hein, et témoignent largement ce qu'on peut encore voir aujourd'hui, notamment à l'hôtel d'Assezanne. À ce moment-là, il existe déjà le collège de rhétorique, l'ancêtre, l'Académie des Jeux Floraux, qui existe déjà. Hein, c'est une institution fort ancienne, mais elle n'a pas encore le titre d'académie. La création des académies, il faudra attendre le XVIIIe siècle.
Alors, on bascule sur la seconde moitié là, du XVIe siècle, et là, on entre dans une période plus sombre, puisque c'est la période des guerres de religion. À Toulouse même, je crois qu'il ne va pas y avoir vraiment de heurts très vifs. C'est plutôt autour de Toulouse que ça va se passer, donc à partir de 1560.
Voilà. Je vais revenir un petit peu en arrière quand même, parce que on ne peut pas comprendre pourquoi les guerres de religion éclatent si on oublie justement ce contexte culturel de la Renaissance qui va permettre aussi l'éclosion d'un mouvement de réforme religieuse. Et les deux choses sont tout à fait liées. Donc Toulouse, là aussi, est comprise dans ce vaste mouvement. Dès les années 1520-1530, il y a des personnalités qui sont dénoncées déjà comme luthériennes, on disait à l'époque. Et le mouvement réformé français, le calvinisme va s'implanter à partir des années 1550-1560. En 1560-1561, le royaume est dans une période difficile parce que ce mouvement de réforme calviniste se développe avec beaucoup de dynamisme. Il heurte une partie de la population, l'opinion publique. Et puis, le pouvoir royal se retrouve fragilisé parce que le roi est mort, Henri II est mort. Et il a des fils qui sont encore jeunes, une reine-mère, Catherine de Médicis, qui est assez contestée et qui essaye d'établir un équilibre sans y arriver finalement après différentes tentatives. Et Toulouse se situe dans ce contexte-là, avec une majorité forte de la population qui est catholique et qui est heurtée par le dynamisme d'une minorité calviniste, parmi laquelle se recrutent d'ailleurs des intellectuels et des gens de haute société, comme Assezanne par exemple, hein, qui était lui-même converti au calvinisme. Donc la ville va connaître des tensions. À partir de 1561, il y a différents incidents et on est dans une dynamique de radicalisation qui fait que des deux côtés, les extrêmes prennent de plus en plus d'importance, hein, que ce soit du côté calviniste ou du côté catholique, jusqu'au moment où les incidents graves vraiment éclatent, en 1562. 1562, c'est le début des guerres de religion en France, après ce qu'on a appelé le massacre de Vassy, qui se déroule en Champagne. Et à Toulouse, comme dans d'autres grandes villes, comme à Lyon, il y a des incidents très graves, un véritable début de guerre civile, lorsque, en mai 1562, les protestants essayent de s'emparer de la ville. Ils s'emparent de l'hôtel de ville, en mai 1562. Mais finalement, cette tentative de coup de force fait long feu et ils sont finalement, après donc, quelques jours de combat à l'intérieur, hein, intramuros, à l'intérieur de la ville, ils sont finalement chassés, un certain nombre d'entre eux sont tués. C'est une date très importante qui va être célébrée ensuite jusqu'à la Révolution française, hein, par une fête officielle qu'on appelle la date de la délivrance, tous les 17 mai, qui fait que désormais, et pour plusieurs siècles, Toulouse est un bastion catholique.
Voilà, donc c'est le catholicisme qui s'impose.
Absolument. Mais autour de Toulouse, dans les campagnes environnantes, il y a des minorités calvinistes et des villes calvinistes, comme l'Île-Jourdain, Montauban, pour prendre quelques exemples. Et donc pendant plusieurs décennies, pendant toute cette période des guerres de religion, jusqu'en 1596 exactement, dans notre région, il y a des combats sporadiques qui se déroulent autour, hein, dans le Midi toulousain, ou des troupes catholiques ou calvinistes passent et repassent.
Est-ce que ça veut dire que Toulouse se vivra un peu comme un bastion catholique assiégé pendant toute cette période ?
Absolument, absolument. Et c'est un trait qui va perdurer ensuite.
Donc on en arrive au XVIIe siècle avec ce fort ancrage catholique donc, de la ville de Toulouse. Alors ça veut dire qu'il y a sans doute une vie religieuse très intense, des églises pleines, il y a des couvents. C'est l'époque aussi où les chartreux arrivent et s'installent à Toulouse.
Absolument. C'est un exemple intéressant qui témoigne de cette vitalité de ce qu'on appelle la contre-réforme ou la réforme catholique, qui est un phénomène européen, hein, français en particulier, et qui touche naturellement Toulouse, où effectivement on voit fleurir un certain nombre de couvents, où il y a une forme de piété très ancrée, notamment dans les élites, y compris chez un certain nombre de personnalités féminines qui s'illustrent. Les jésuites sont installés également dans la ville, et tout ceci montre un fort dynamisme religieux. Désormais, l'intention l'intensité du sentiment religieux ne passe plus par l'usage des armes, hein, comme pendant la période des guerres précédentes, mais par des formes de dévotion, de piété, dont témoignent par exemple aussi les sorts des confréries de pénitents, qui sont quatre à Toulouse. Ça ne se fait pas d'ailleurs sans difficulté, parce que les autorités religieuses locales et les autres couvents, les ordres déjà installés, voient d'un mauvais œil cette multiplication.
Une espèce de concurrence.
Absolument, une concurrence, voilà, et ils prennent un certain nombre de mesures pour freiner le dynamisme des nouveaux venus.
Alors, il y a un événement un peu particulier, c'est l'exécution d'Henri II de Montmorency en 1632, place du Capitole. Il y a la plaque encore, vous savez, quand on rentre dans la cour intérieure, on voit cette plaque. Qui était ce personnage et pourquoi a-t-il été exécuté?
Alors, si vous entrez dans cette cour du Capitole, il y a deux éléments qui peuvent vous frapper. Il y a effectivement cette plaque, hein, concernant Montmorency, et puis vous avez aussi au-dessus la statue d'Henri IV. Et les deux sont un bon témoignage du renforcement du pouvoir royal dans la première moitié du XVIIe siècle. D'abord, sous Henri IV, qui, après les guerres de religion, remet le pays et la ville au pas et fait installer donc cette statue au sein même de l'hôtel de ville, qui témoigne donc de la prééminence de l'autorité royale face à une ville qui avait été assez dissidente, on va dire. Et puis, il y a cette commémoration de l'exécution de Montmorency. Alors, Montmorency, c'est un personnage important qui appartient à la grande aristocratie. Les Montmorency sont une très grande famille. Et il appartient à une dynastie aussi qui était, depuis plusieurs générations, gouverneur du Languedoc, ce qui était une charge très très importante. Mais on est durant une période, ici c'est le règne de Louis XIII, où le renforcement de l'autorité royale dans le cadre de ce qu'on appelle l'absolutisme se heurte justement à la fois à l'autonomie des provinces et puis aux aspirations de ce qu'on appelle les grands, hein, ces grands nobles qui justement souhaitent avoir du pouvoir localement dans les gouvernements et les provinces dont ils ont la responsabilité. Et finalement, Montmorency va servir d'exemple à ce renforcement de l'autorité royale. Il a eu la mauvaise idée de se rallier à une énième révolte nobiliaire, parce qu'il y en a eu beaucoup durant cette période. Une révolte qui est menée par le propre frère du roi, qui s'appelait Gaston, qui a passé sa vie à essayer de comploter contre son frère. Et finalement, Montmorency se lance dans l'aventure de manière assez irréfléchie. Il rassemble des troupes derrière lui, mais assez peu nombreuses. Il affronte les troupes royales à Castelnaudary, pas très loin d'ici, lors d'une bataille qui se termine par un échec cinglant. Et la province du Languedoc, la ville de Toulouse, ne le suivent pas, ne se rallient pas à lui. Ce qui fait qu'il va se retrouver isolé, il est arrêté, il est jugé et condamné par le Parlement de Toulouse pour trahison. Et il est exécuté, on le fait exécuter dans la cour même, à l'abri de regards, par crainte qu'il y ait des mouvements de foule en sa faveur. Il devient ainsi une sorte de victime, si vous voulez, de l'absolutisme.
Voilà pour l'histoire d'Henri II de Montmorency, donc exécuté en 1632, place du Capitole. Cette année, 1632, c'est aussi celle où est construit le Pont Neuf, qui est pas très loin de la radio d'ailleurs. Et puis, c'est le siècle aussi des grandes constructions et du canal du Midi, avec ce personnage évidemment éminemment important que sera Pierre-Paul Riquet.
Alors ça, c'est une autre histoire qui s'ouvre après le pastel, dont le commerce s'effondre dans les années 1560 pour différentes raisons. Toulouse connaît une phase économique beaucoup plus difficile. C'est une période, de toute façon, le XVIIe siècle qui est largement marquée par toute une série de crises récurrentes dans le cadre de la France et à Toulouse, dans le Midi en particulier. Et la création du canal du Midi, sur cette idée de Pierre-Paul Riquet, va changer la donne. Alors, il n'est pas le premier à avoir eu cette idée-là, c'était une vieille histoire, hein, qui traînait, mais il va être le premier à la rendre possible, réalisable, à la fois par ses idées en tant qu'ingénieur pour permettre donc la traversée du seuil de Naurouze, et puis aussi par l'argent qu'il y engloutit. Il était lui-même extrêmement riche, il s'était enrichi dans les finances royales, dans le prélèvement des impôts, et aussi par les appuis, les relations, les réseaux de relations qu'il a su mener à bien. Ce qui fait que ce vieux projet va être réalisé. L'édit royal qui ordonne la création du canal date de 1666, et dès l'année suivante, il y a une grande cérémonie pour poser la première pierre de ce canal, dont la construction va être une longue aventure, hein. C'est à partir des années 1680 que le canal entre en fonctionnement. Au début, de manière d'ailleurs assez limitée, et il va falloir plusieurs décennies pour que vraiment le commerce se développe de manière importante. Conséquence, il faut attendre en gros le tout début du XVIIIe siècle pour que là, désormais, le canal joue un rôle commercial extrêmement important. Il sert surtout à exporter les céréales qui sont cultivées autour
dans de le Touraine, beaucoup,
dans le Lauragais en particulier.
C'est pour ça qu'on a beaucoup de maisons de maître dans le Lauragais,
absolument,
de grandes propriétés.
Et les grands profiteurs, finalement, sont les grands propriétaires toulousains qui investissent dans des grandes propriétés autour de Toulouse et qui appartiennent à la noblesse toulousaine.
Alors, autre événement marquant du XVIIe, celui-ci de triste mémoire, c'est la peste qui revient encore à plusieurs reprises et qui va entraîner de nouvelles saignées dans la population.
Effectivement, la période jusque dans les années 1670, où la peste disparaît pour des raisons qu'on ne connaît pas vraiment, oui, d'ailleurs, la peste est endémique en Europe et dans la première moitié du XVIIe siècle, elle a été particulièrement virulente. On a plusieurs flambées épidémiques. Toulouse est touchée deux fois, à peu près une vingtaine d'années de distance. Une première fois dans les années 1630, en 1631, et puis en 1652-1653. Donc c'est la peste qu'on appelle la peste bubonique, qui crée l'effroi dans les populations, parce qu'on ne sait pas du tout la soigner. Le taux de mortalité est très élevé, parce que là, on est plutôt à 50%.
Voilà. À l'époque, oui, voilà, il fait des milliers de morts dans la ville.
Hein. Oui, oui, oui. Et elle a un côté effrayant. Alors, à cette époque-là, on ne confine pas les gens dans leurs maisons, mais on isole les pestiférés. Dans le cas de Toulouse, on les isole dans les prés, dans le quartier des sept deniers.
On arrive au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Alors, à l'époque, on a parlé un peu des relations avec le pouvoir central au XVIIe. Au XVIIIe, avec Louis XV, ça se passe comment entre Toulouse et le pouvoir royal?
Globalement, je puis dire, ça se passe bien parce que Toulouse est une ville qui est surtout une grande ville administrative et surtout une grande capitale judiciaire. Elle a ce qu'on appelle un parlement, qui est une sorte de tribunal d'appel. C'est le deuxième de France, à la fois par l'ancienneté, l'étendue de son ressort qui était immense. Hein, c'était plus grand que l'actuelle région Occitanie. Donc, ça attirait beaucoup de monde pour des affaires judiciaires à Toulouse. Ça faisait vivre en grande partie la ville. Et les membres, les juges, qu'on appelle des parlements, étaient des officiers royaux, donc ils étaient au service de la justice royale. Donc forcément, la ville avait des liens étroits. Mais au XVIIIe siècle, dans toute la France, les différents parlements de province et ceux de Paris ont tendance à devenir ou à essayer de devenir une sorte de contre-pouvoir face à l'absolutisme. Et le parlement de Toulouse, lui aussi, va participer à un certain nombre, on va dire, d'accrochages dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec le pouvoir royal, en essayant de prendre le contre-pied d'un certain nombre de décisions royales.
Alors, on n'en a pas parlé jusqu'alors, mais juste pour donner une idée, la population de la ville de Toulouse à l'époque, c'est combien? C'est plus ou moins 50 000 personnes?
Voilà, ça tourne, on va dire, de manière très schématique, autour de 50 000 personnes. Au cours du XVIIe, ça a diminué.
À cause des épidémies de peste,
à cause des épidémies, puis surtout la moindre vitalité démographique. Ouais. Les villes à cette époque, et Toulouse ne fait pas exception, connaissent une mortalité très importante et en fait, leur croissance est due à l'immigration, à l'immigration des campagnes. Donc, quand la ville est moins dynamique, elle voit plutôt sa population baisser. Donc, elle tombe peut-être vers 40-45 000. Et puis, au XVIIIe siècle, elle va augmenter, elle est autour probablement de 60 000 à la veille de la Révolution.
Alors, un des grands événements du XVIIIe, on va parler de la Révolution française bien sûr, mais à Toulouse, c'est l'affaire Calas.
Bien
en 1762.
Sûr.
Alors, rappelez-nous qui était Calas et ce qu'on lui a reproché.
Alors, Calas est un marchand qui habite dans l'actuelle rue des Filatiers. Bon, un personnage qui appartient à une petite bourgeoisie. C'est une famille qui pourrait avoir l'air sans histoire. Il y a plusieurs enfants qui sont déjà de jeunes adultes. Mais c'est une famille protestante. Et on revient à ce que nous évoquions tout à l'heure. Donc, Toulouse est une ville catholique, mais il y a quelques familles qui sont officiellement catholiques, puisqu'il n'est plus possible en France d'être protestante depuis 1685 et la révocation de l'édit de Nantes, mais on sait que certains en fait sont des protestants et les Calas en font partie. Donc l'affaire débute en 1761, en octobre 1761, quand on découvre le corps mort d'un des fils Calas dans l'arrière-boutique un soir. Sa famille pousse les grands cris, on crie qu'il a été assassiné, mais rapidement l'enquête qui est menée par les capitouls, puisque ceux-ci avaient le pouvoir de justice, montre qu'en fait, il semblerait que le fils Calas n'a pas été assassiné et montre des incohérences dans le récit de sa famille. Et à ce moment-là, sa famille et son père en particulier, Jean Calas, explique que oui, Il n'a pas été assassiné. En fait, il s'est suicidé en se pendant. Mais le suicide était considéré comme un acte infamant. Les suicidés ne pouvaient pas être enterrés religieusement. Et donc, ils ont essayé de masquer le suicide en le faisant passer pour un attentat. Mais tout de suite, les heures, les jours qui suivent, la rumeur publique propose une autre version qui va être celle que va reprendre la justice des Capitouls de Toulouse. Non, il ne s'est pas suicidé, il a été tué par son propre père. Et pourquoi ? Parce qu'il aurait voulu se convertir au catholicisme, comme l'avait fait un de ses frères. Et son père, par fanatisme religieux, aurait préféré le tuer lui-même avec la complicité de toute sa famille et de la communauté protestante. C'est pourquoi il est condamné à mort par les Capitouls. Le procès vient en appel devant le Parlement de Toulouse, qui était la procédure normale. Et les parlementaires, les juges, hésitent, mais finalement se prononcent à la majorité sur la culpabilité de Jean Calas, qui est donc mis à mort sur la place où on pratiquait les exécutions, sur la place Saint-Georges, en mars 1562. Il est roué parce qu'il est accusé d'un crime très grave qu'on a le crime de parricide, sont les crimes entre parents et enfants. L'opinion publique toulousaine est persuadée de sa culpabilité. Il y a de très nombreuses exécutions à Toulouse parce que quasiment tous les condamnés à mort par le Parlement sont exécutés à Toulouse même. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'exécutions. Certaines sortent un peu de l'ordinaire, comme celle de Calas, parce que c'est quand même un crime particulier.
Bon, il y aura le fameux texte de Voltaire, bien sûr. On ne va pas revenir dessus. On arrive à la Révolution française. Alors, à Toulouse, bon, évidemment, il y a des tensions, il y a des heurts, mais c'est quand même apparemment moins violent que ce qui a pu se passer ailleurs dans le pays.
Effectivement, comparé à ce qui a pu se passer à Marseille, à Lyon ou à Bordeaux, la violence est beaucoup moins forte à Toulouse. Ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante et que la Révolution se passe en douceur et ne crée pas des perturbations extrêmement importantes. La ville est impactée de plein fouet par la Révolution parce que ses piliers, c'était, je l'ai dit, son rôle judiciaire et aussi l'importance religieuse et l'importance que tenait le clergé dans la ville. Or, avec la Révolution, il y a une très grande réforme judiciaire qui supprime notamment les parlements. Donc, Toulouse perd son rôle de capitale judiciaire. Et le clergé, ce qu'on appelle le clergé régulier, les ordres religieux sont supprimés. Le clergé séculier, les curés, etc. sont divisés par un schisme entre ceux qui sont favorables à la Révolution et ceux qui ne le sont pas. Bref, le rôle de religieux de Toulouse est également tout à fait remis en cause. Et ceux qui sont évidemment la victime désignée de ces changements, ce sont les parlementaires, ces juges qui étaient tous nobles, très riches, ce sont eux qui détenaient ces grandes propriétés agricoles, qui avait tiré parti du canal du Midi et qui dominait la ville à la fois sur un plan économique, financier, social, culturel, etc. Cette minorité, en plus, a eu la mauvaise idée au début de la Révolution de prendre parti, pour certains, par un texte tout à fait public, ce qui les a désignés à la vindicte populaire. Et donc, ils sont poursuivis collectivement pendant la période. Leurs biens sont confisqués comme biens nationaux. Et un certain nombre d'entre eux, une bonne cinquantaine d'entre eux, sera guillotiné en 1794. Donc, dans l'ensemble de la France, c'est le Parlement qui a été le plus décimé, on dirait, durant la période révolutionnaire. Ceci dit, dans la ville même, il y a la terreur, par exemple. Le nombre d'exécutions est relativement réduit, ce qui s'explique par différentes raisons, mais aussi, sans doute par le fait que, justement, cette élite qui était si puissante, finalement, a fédéré contre elle des groupes qui, ailleurs, dans d'autres villes comme à Lyon ou à Marseille, se sont entre-déchirés en 1793.
On pourra dire aussi qu'au XVIIIe, il y a un certain nombre de transformations urbaines, urbanistiques.
Sûr.
Le Grand Rond.
Oui, nous en avons des traces tout à fait actuelles.
Le Grand Rond. Les quais de Garonne.
Les quais de Garonne, le Cordillon, l'aménagement des quais.
La façade du Capitole.
La façade du Capitole, l'agrandissement progressif de la place du Capitole qui est terminée au début du XIXe siècle, la construction du canal de Brienne.
Modernisation
tout à fait importante.
On arrive là à la toute fin du XVIIIe, on est à l'aube du Premier Empire, il y aura la bataille de Toulouse, on en parlera la prochaine fois parce que nous devons hélas conclure pour cette émission, la troisième consacrée à l'histoire de Toulouse. Merci infiniment, Christine Doucet-Seyden. Vous avez été une guide passionnante et passionnée, très prolixe lors de cette promenade dans les 16e, 17e et 18e siècles toulousains. Je pense que nous serons nombreux à avoir appris des choses sur notre cité en votre compagnie. Trois siècles qui auront durablement marqué Toulouse. On en voit encore les traces aujourd'hui, notamment dans le patrimoine immobilier de la ville, comme on en parle à l'instant. Nous terminons donc sur la Révolution française et les années qui suivent. Nous aborderons l'époque moderne lors de notre prochaine émission qu'il ne faudra surtout pas manquer. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.